Rêvez-vous en italien?
Non.
Faites-vous vos additions en disant 4 et 5, 9 ou en disant 4 et 5, 9?
Je suis incapable de faire une vraie addition en français. Je suis sûre que je rêve en français, parce que je me rappelle toujours, et je suis sûre aussi que quand dans les moments angoissés où je crois avoir dépensé moins d'argent que je n'en ai dépensé, je le fais toujours en italien pour avoir l'addition juste.
Jukebox.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Ardot.
Un événement du passé mis en récit par un texte des archives et des musiques inspirées par son sujet. Chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Aujourd'hui, une histoire des migrations italiennes en France. Première immigration de masse vers l'Hexagone, elle avait gonflé sous l'effet de la misère dans la deuxième partie du 19e siècle, connaissant par la suite des vagues successives. Paysans, ouvriers, maçons ou artistes transalpins n'avaient pas seulement aidé à reconstruire et à repeupler la France frappée par les crises et les guerres, ils avaient également participé à en remodeler divers aspects. Sa gastronomie, sa langue, comme nous le rappellera François Reinhardt, notre confrère de l'Obs pour son pas de côté mensuel, mais aussi sa musique ou son imaginaire artistique. Et ce, malgré l'aversion et la xénophobie qui, pendant un siècle, avait souvent accueilli ces nouveaux venus, alimentant un important patrimoine de chansons de migrants. Aujourd'hui donc, comme un Italien en France. Ça n'avait été, au fond, qu'un banal accident de la circulation. Il faisait froid ce petit matin dans ce repli de la banlieue lyonnaise. Les pluies de la nuit avaient cloué au sol des plaques de verglas et le camion, qui roulait trop vite, n'avait pas eu le temps de freiner devant l'apparition de cette silhouette sur la chaussée. Des ombres s'étaient groupées auprès du corps. On avait appelé une ambulance, on s'était démené pour tenter de faire ce qui pouvait être fait en attendant les secours. On avait dépoitraillé le gaillard et deux hommes s'étaient relayés pour essayer de relancer la mécanique interne de ce corps de colosse. Puis, un homme à casquette avait accouru, s'était agenouillé, lui avait pris la main et lui avait chuchoté doucement « Albert, Albert, reste avec nous !» Lorsque les gyrophares de l'ambulance avaient crevé l'obscurité, c'était trop tard. On avait allongé le gars à l'arrière et son copain avait grimpé à ses côtés, refusant de lui lâcher la main. Tandis qu'on s'acheminait vers l'hôpital, l'infirmière avait fait les poches de son veston pour en extraire un vieux portefeuille de cuir élimé. En sortant sa carte d'identité, il en avait fait s'échapper un papier qui avait plané un moment jusqu'au sol métallique de l'habitacle. L'autre s'était penché et, à la lueur du plafonnier, il avait observé cette photo craquelée à force d'avoir été manipulée. Il lui avait fallu du temps pour reconnaître dans ce groupe de gamins le géant affalé devant lui. Sans doute prise, longtemps auparavant, au fond d'une taverne, quatre solides adolescents se tenaient par les épaules et souriaient avec confiance à l'objectif. Derrière eux, un petit crucifix pendait à côté d'une patère. En retournant l'image, l'homme à casquette y avait lu des mots griffonnés. « À toi, Alberto, bon vent en France, mais n'oublie pas de nous revenir », suivi d'un prénom qui n'était pas parvenu à déchiffrer.
Ritornerei, lo so, ritornerei, e quando tu sarai con me,
ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai quel giorno, riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai. Sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, 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 ritornerai.
Tu reviendras, je le sais, quand tu seras avec moi, tu retrouveras toutes ces choses que tu ne voulais pas voir, tu réaliseras que rien n'a changé, que je suis resté l'illusion de toujours, et tu riras ce jour-là, mais pour l'heure, tu te sens seul avec ta liberté, et c'est pourquoi tu reviendras. Ritornerai, le chanteur Bruno Lauzi, 1963. Marchand des foires au Moyen-Âge, banquier lombard, artisan et artiste durant la Renaissance, mais aussi au XVIIe et XVIIIe siècle, danseur, musicien et comédien, la présence italienne en France était ancienne, mais disons que jusqu'au XIXe siècle, le phénomène, quoique parfois très visible, était resté marginal. C'est l'industrialisation de l'Europe et les bouleversements sociaux l'accompagnant qui avaient accéléré le processus. Dans les années 1870, l'Italie, tout juste unifiée, affronte une crise économique profonde, doublée d'une explosion de sa population. Ne trouvant plus de travail, ses paysans quittent le pays par millions. La plupart s'en va en Amérique du Sud, en Argentine ou au Brésil pour s'y faire embaucher comme saisonniers, ou bien aux États-Unis. D'autres optent pour un voyage moins long et la France voisine. Ils viennent essentiellement du nord de l'Italie, du Piémont, de la Toscane ou de Lombardie. Si certains parviennent en bateau jusqu'à Marseille, l'essentiel traverse les Alpes via le chemin de fer et la vallée de la Maurienne. La France connaît alors une baisse de sa natalité et a besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de ces nouveaux venus s'installent dans le sud-est, notamment à Marseille, dont ils représentent bientôt un habitant sur quatre. Puis, certains, progressivement, remontent au gré des embauches le long de la vallée du Rhône, à Lyon, où ils forment une importante communauté, et viennent se fixer à Paris. Dans la capitale, ils s'installent dans les quartiers populaires, là où, quelques décennies plus tôt, s'étaient établis les Auvergnats, qui avaient ouvert leurs cafés et charbons, débits de boissons, restaurants bon marché, mais aussi les dimanches, lieux de bal où l'on danse la bourrée au son d'un instrument que les Auvergnats avaient emporté avec eux, la cabrette ou musette, une sorte de cornemuse faite de peau de chèvre. Or, les Italiens, eux aussi, ont apporté en France leurs traditions et leurs instruments, notamment celui qui incarne aujourd'hui encore l'apport musical de l'Italie à la France, l'accordéon. C'est alors, du moins sous sa forme moderne, un instrument récent fabriqué depuis peu dans les ateliers de Castelfidardo, dans la région des Marches. L'accordéon que les Italiens, notamment dans le quartier de la Bastille, à Paris, obtiennent d'intégrer dans les bals-musettes d'Auvergnat et qui connaît alors un immense essor. Sous l'égide notamment d'une famille italienne, les Pégouri, Félix, un Piémontais, mais aussi ses trois fils, Charles, Louis et Michel, qui en popularisent les techniques et l'esthétique. Louis, par exemple, œuvre pour que l'accordéon fasse son entrée dans les conservatoires français et qui, en 1933, enregistre la piémontaise que l'on entend en ce moment. Comme un pied dans la porte.
Sigillo di stupori.
vieille chanson populaire d'origine calabraise, cette ritournelle-là, interprétée en 1978 par le chanteur Eugenio Benato, dans laquelle la ritournelle, l'hirondelle, l'oiseau voyageur et allégorie de la migration sert de messager entre une femme et son bien-aimé parti travailler loin d'elle. L'exil, évoqué alors par nombre de chansons populaires italiennes, est évidemment un déchirement, d'autant que l'acceptation des nouveaux venus en France ne va pas de soi. De même que les Auvergnats renaclent à voir l'accordéon devenir le symbole des bals musettes, les dernières années du 19e, marquées par une forte immigration, celle des Italiens mais aussi des Belges au nord, nourrit des sentiments nationalistes et la création des ligues d'extrême droite. Dès 1890, il devient ainsi obligatoire pour tout étranger en France d'avoir sur soi une carte de séjour et de se faire connaître auprès de la mairie de son village. Cette fin 19e, en Camargue, les marais salants s'étalent à perte de vue. La récolte s'y fait comme chaque année au mois d'août. C'est un travail de forçat. Sous la chaleur accablante et la réverbération, il faut pelleter le sel et le charger dans des brouettes, ce sel qui brûle les épaules, les bras, les pieds, les mains, les yeux. Malgré tout, et vu que le travail est plutôt bien payé, la CSM, la Compagnie des Salins du Midi, ne manque pas de volontaires. Comme chaque été, les bricoles, ces groupes de saisonniers, viennent s'y faire embaucher. Il y a les Aigues-Mortais, les habitants du coin, les Ardéchois, descendus des Cévennes voisines après la fin des moissons, les Trimards, ces vagabonds venus chercher un peu d'ouvrage, mais il y a surtout des Italiens, des Piémontais, les mieux structurés et les plus efficaces. Or, cet été 1893, le travail manque et des milliers d'ouvriers français restent sur le carreau. La chaleur fait tourner le vin et bouillir les frustrations et, le 17 août, des centaines d'entre eux s'en prennent aux Piémontais qu'ils accusent d'accepter des salaires trop bas et, par là même, de leur voler leur travail. Dans l'après-midi, des violences éclatent que la gendarmerie locale, en nombre insuffisant, échoue à endiguer. Le massacre d'Aigues-Mortes fait au moins 8 morts parmi les Piémontais. Le lendemain, le maire interdit l'embauche d'Italiens, mais le quotidien local envenime les choses, affirmant que les Français n'ont fait que riposter aux violences italiennes. Dans la foulée, la presse nationale s'en donne à cœur joie contre ces immigrés, ces classes dangereuses qui refuseraient de s'intégrer à la société française. La France, qui est alors, comme d'autres, frappée par de fortes turbulences, il y a la récession économique, mais aussi la montée du péril anarchiste. Et lorsque l'année suivante, en juin 1894, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné à Lyon par un anarchiste italien, Caserio, la ville connaît, plusieurs nuits durant, une chasse à l'homme. L'aversion envers les transalpins s'exprime désormais au grand jour.
Soldi e tante
France Culture, Jukebox, aujourd'hui comme un Italien en France. Nous remercions cette nation qui nous chasse tous. Nous sommes de pauvres émigrants qui allons travailler. Maudit soit ce gouvernement, maudit soit ces messieurs qui ne pensent pas aux souffrances de ceux qui vivent de leur travail. L'altro giorno andando in Francia, autrement dit l'autre jour en allant en France, chanson anonyme du 19e provenant peut-être de la région de Rome, traduisant l'amertume de ces immigrés italiens en France confrontés à l'aversion des populations locales, lesquelles bientôt adoptent pour les stigmatiser le terme de Rital. Malgré les douleurs de l'exil, malgré la xénophobie, les articles orduriers publiés dans la presse sur leur cuisine et surtout l'alliance inquiétante de l'Italie et de l'Allemagne au sein de la Triplice, le mouvement d'émigration italien se poursuit. La communauté italienne devient la première étrangère en France avec 500 000 personnes en 1911. Beaucoup se sont installés en banlieue parisienne, à l'est comme à Nogent-sur-Marne, mais aussi dans les villes industrielles de l'ouest, Boulogne-Billancourt, Clichy, Levallois, Puteaux ou Suresnes. Quand l'Italie entre dans la guerre en 1915, certains s'en retournent au pays, mais beaucoup reviendront une fois le conflit terminé. Ces Italiens s'intègrent d'autant qu'ils sont travailleurs, compétents, courageux et qu'ils s'avèrent nécessaires pour repeupler la France. Dans le sud-ouest, 50 000 agriculteurs transalpins remettent en marche des exploitations à l'arrêt, sèment des courges et, les récoltant prématurément, donnent naissance aux courgettes. Et au passage, ils remplissent les églises désertées. L'église française, confrontée à l'érosion de ses ouailles, dans cette France nouvellement laïque, milite d'ailleurs pour leur assimilation. D'autant que bientôt, l'avènement au pouvoir de Mussolini en octobre 22 occasionne une nouvelle vague d'arrivées. Des syndicalistes, des militants de gauche qui se retrouvent à Paris où ils forment des cercles antifascistes. Pendant ce temps, d'autres viennent embaucher dans les mines et les usines. Témoignage d'un Italien arrivé avec sa famille dans les années 30 dans la région Rhône-Alpes.
On a pris le train, bien sûr. Il y en a été dans ce petit pays, à 7 km de Montbrison. Il y avait une usine, une seule usine, Saint-Gobain, une verrerie. Ils ont embauché mon père, mes deux frères. Moi, à ce moment-là, j'avais 10 ans. Et on disait, à 13 ans, il faudra travailler. On est resté encore un an. On m'a embauché aussi, à la verrerie, à 13 ans, et travailler de nuit. J'ai pleuré. J'étais un petit poétique. Hein. Je voyais le soleil descendre. Et moi, je travaillais. On avait une pince. On prenait la bouteille chaude. On le mettait dans un sabot, ça s'appelle. On allait le porter au four. Et on revenait. Il fallait revenir vite. C'était dur.
Et vous rêviez de quoi ?
De partir à la campagne et d'être libre. D'être libre, ne pas être dans cette fournaise.
Ma come devo fare se tutti vanno via? Oh, che malinconia, da sola resterò. La 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 la. Torneremo a San Martino per venirti a ritrovare. Torneremo, suonerà la banda in testa, sarà proprio una gran festa.
va a girare il mondo in cerca di fortuna, ma non ho più nessuna, a te io penserò. La 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 la. Torneremo sulla neve coi marenghi nel taschino, torneremo a San Martino per venirti a ritrovare. Torneremo, torneremo, suonerà la banda in testa, sarà proprio una gran festa ed andremo a fare l'amor. E tu ti vai in Francia per lavorare, e tu ti vai in Francia.
Tout le monde va en France pour travailler, mais comment dois-je faire dès lors? Oh, quelle mélancolie, je resterai seul. Et tout y va in Francia, déploration de l'émigration des habitants du Frioul vers la France, émigration qui, au moins, à l'inverse de celle vers l'Amérique, offre la possibilité d'un retour à brève échéance, d'autant que bientôt, les États-Unis ferment leurs frontières aux Italiens.
Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole.
Ces années 20 et 30, l'immigration italienne est essentiellement constituée de classes laborieuses. Les paysans s'ancrent dans le sud-ouest, les maçons à Paris ou dans le sud-est, mineurs et sidérurgistes gagnent la Lorraine, comme à Villerupt en Meurthe-et-Moselle, dont les hauts fourneaux tournent à plein régime, grâce à des Italiens venus quasi exclusivement d'un même village, Gualdo Tadino, en Ombrie. Souvent, les migrations se font d'ailleurs par les réseaux familiaux ou villageois. On rejoint un parent, un cousin, un voisin qui souvent dépanne dans les premiers temps. À ce titre, il faut noter que les Italiens ne formeront jamais une communauté en exil au sens américain du terme communauté, mais bien une multitude de petites Italies, de petites colonies éparpillées, recréant à chaque fois des solidarités communautaires. En 1931, la France compte 1 million d'Italiens. Beaucoup de ces macaronis, comme certains les appellent, sont naturalisés. Ils se mettent à donner des prénoms français à leurs enfants, Albert ou Marie, même si dans le cadre familial, on continue à les appeler Alberto ou Maria. En 1936, ces ouvriers s'intègrent au mouvement social, adhèrent à la CGT. Parallèlement, l'influence de la culture italienne commence à se faire sentir. Des chansons sont adaptées de l'italien, comme le Chaland qui passe, interprété en 1934 par Lise Gotti.
Arrête-toi, Tony! Arrête-toi, je te tire dessus, moi, tu sais!
Laisse-moi passer!
Tony! Tony, mon vieux copain! Oh. Je te fais mal quand je bougeais, mais je remue plus, hein. Appuie ta tête dans mes bras comme ça, oui. Respire lentement.
En 1935, sort en salle Tony, réalisé par Jean Renoir. Première fiction racontant l'histoire dramatique d'un ouvrier italien émigré à Martigues et premier des nombreux films qui, les deux décennies suivantes, creuseront l'archétype de l'ouvrier italien, viril, séduisant, souvent incapable de s'ancrer dans le territoire où il évolue. Puis vient la Deuxième Guerre mondiale qui crispe les esprits, même si, au coup de couteau dans le dos de l'entrée en guerre italienne aux côtés de l'Allemagne, répondra également l'engagement de nombreux transalpins dans les rangs de la résistance française. Mais avançons. Archives, 1946.
Au pied des Alpes, sur le versant italien, la ville d'Ost et sa vallée posent un problème. Dans ce pays où les noms, la langue, les mœurs, les aspirations sont françaises, il ne semble pas que l'octroi par l'Italie d'une sorte d'autonomie dans le cadre italien ait satisfait les 100 000 Valdotins. Les Valdotins respirent mal et ils partent vers la France. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils vont chercher en France une vie plus compatible avec leurs goûts et leurs aspirations. En dépit des dangers que représente actuellement cette aventure, car il y a la distance, la montagne et la neige, les reporters des actualités françaises ont réussi dans des conditions dramatiques à filmer d'Ost en France la traversée d'une dizaine de ces émigrants, parmi lesquels se trouvaient 3 enfants. par une tempête de neige, une partie du groupe put se réfugier à l'hospice du Petit Saint-Bernard et gagner le lendemain le versant français. Hélas, l'un des émigrants perdus dans la tourmente trouva la mort dans un champ de neige. Ce fut derrière le groupe désuni un cadavre qu'on ramena en terre française, un cadavre que les frontaliers accueillirent avec la grande piété simple des âmes primitives. Pourquoi des hommes fuient-ils leur pays? Pourquoi des hommes peuvent-ils mourir sur une route? C'est le problème, Dos.
Non trangere i bella, se devo partire, se devo restare lontano da te. Non piangere i bella, non piangere mai, che presto vedrai il ritorno da te.
Dans le Val d'Aoste et ses influences provençales que Mussolini avait tenté d'italianiser, dans le Val d'Aoste, comme ailleurs, la traversée des Alpes constitue un voyage périlleux pour les Italiens que la France d'après-guerre souhaite attirer, mais de manière encadrée. Beaucoup, dès lors, ont recours aux traversées clandestines suivant des sentiers connus depuis longtemps par les frontaliers, mais se perdant aussi, parfois. Leurs origines évoluent. Les Italiens du Sud, venus de Calabre ou de Sicile, prennent le pas sur ceux du Nord, mais ces derniers n'ont pas grand-chose en commun avec leurs compatriotes arrivés 10 ou 20 ans plus tôt. Leurs origines méridionales, leur pauvreté, leur manière fruste font ressurgir dans l'opinion française la tentation de tout mélanger. Étranger égale violence, égale crime, égale mafia. Les ouvriers italiens sont partout, notamment dans les mines de l'Est et du Nord de la France, mais aussi en Belgique. Le 8 août 56, dans une mine de Charleroi, une forte explosion coûte la vie à 262 mineurs, parmi lesquels 136 Italiens. Un drame qui inspirera en 1963 au poète sicilien Ignazio Butita une chanson, « Le train du soleil », hommage aux victimes de l'explosion.
Discordo, sol fataro, abitante a Mazzarino, prese il treno di Lusuli per seguire il suo destino. Che faceva Mazzarino, se lavoro non ce n'era, fece sciopero una volta e lo misero in galera. Una tana la sua casa, quattro ossa la mughieri, e la fame lo cercava con le carte dell'usciere.
Sette figli e la mughieri, otto bocche, otto pance, e nel cuore una carretta caricata di doglianze. Ma nel Belgio invece ora lavorava giorno e notte, alla moglie lui scriveva non mangiate fave cotte.
Con i soldi che ricevi puoi comprare le lenzuola e le scarpe per i figli per poter andare a scuola.
Alla moglie lui scriveva, le miniere di carbone sono nere, nere, nere come sangue di dragone. Dopo un anno di soffrire, finalmente si decise, moglie mia prendi la roba, non c'è pane al tuo paese.
Fu così che madre e figli, con il cuore addolorato, indossando stracci vecchi, Mazzarino hanno lasciato.
Covata degli zingari arrivò alla stazione con fagotti nelle mani e con sacchi sul groppone. La covata con la chioccia quando fu sopra quel treno non sapeva se era in cielo o coi piedi sul terreno.
Il paese da lontano ora sale ora scende e il treno che volava senza ali e senza penne.
Ogni tanto si fermava e salivano emigranti con i visi macilenti, senza carne come i santi. Quando venne la nottata, dopo Villa San Giovanni, c'è una radio che suona e conforta i loro affanni.
casa scorda, ascolta e pensa, chissà cosa andrò a trovare, altra vita, altra gente, altre lacrime più amare.
E si stringe per difesa nelle braccia al più piccino, mentre fissa, spaventata, gli altri figli lì vicino. La radio come prima suona musica da ballo, un discorso di ministro, un minuto di intervallo.
Poi diede le notizie, era quasi mezzanotte, solo le ultime notizie, le notizie della notte.
Ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, un'esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato. I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta di Riesi, provincia di Caltanissetta. Francesco Tilotta di Villa Rosa, provincia di Enna. Alfio Calabrò di Agrigento. Salvatore Scordo di Mazzarino.
Me marito, rosa scordu, grida e piange, e le voci, sangue e fuoco, dentro gli occhi come lance.
Come avesse cento bocche, si lamenta e si dispera, scorticandosi le carni con le unghie di una fiera. E tra i figli c'è chi piange, non capisce, annegati fra le onde di quel mare senza pesci. Tutti intorno gli emigranti più non sanno cosa fare, anche loro trascinati dalle onde di quel mare.
Corre il treno nella notte, che nottata lunga e scura. Non ci fu il funerale, è una fossa la vettura.
Tu riscordo al finestrino, dietro il vetro appiccicato, senza occhi e senza bocca, è uno scheletro bruciato.
Spunto l'alba senza sole, tu riscordo la restava, rosa scordu lo stringeva tra le braccia e si bruciava.
Le trio Antonio, Giorgio et Daniella pour ce L'Outre-nous di Lussulli, le train du soleil, interprété en sicilien en 1971. Bonjour François Reinhardt.
Bonjour Amaury.
Journaliste à l'Obs, piqué d'histoire, vous nous rejoignez aujourd'hui, comme pour chaque dernière émission du mois, afin de nous proposer votre pas de côté, pour lequel vous avez choisi cette semaine, non pas de vous plonger dans vos livres d'histoire, mais d'ouvrir un dictionnaire.
Ben oui, parce qu'il me semble que, je ne sais pas si je dois parler allegretto, adagio ou sotto voce hein, pour amener mon sujet, mais il me semble en effet que dans votre excellente émission, Amaury, il reste une immigration transalpine dont vous n'avez pas parlé, c'est l'immigration linguistique. En français, un nombre considérable de mots viennent en effet de l'autre côté des Alpes et l'italien passe pour la deuxième langue auquel on a emprunté du vocabulaire juste après l'anglais. Certaines viennent d'il y a très longtemps, hein, comme du Moyen-Âge. Vous avez parlé tout à l'heure des banquiers lombards. Bah, effectivement, au XIIe et au XIIIe siècle, hein, ces riches marchands, ce sont eux qui ont lancé en Europe la circulation monétaire. Et c'est d'eux que nous voyons par exemple le mot banque. Le mot banque, il est dérivé de l'italien banca, qui veut dire un banc, mais qui désignait aussi le comptoir, où on échange l'or contre les monnaies de l'époque. Les ducats ou les sequins, hein, qui viennent de Venise, ou les florins, qui comme leur nom l'indique, viennent de Florence. Quand le changeur fait faillite, on brise son comptoir. Hein, le banc brisé se dit en italien ou la bancarotta, hein, ce qui a donné en français et dans toutes les langues européennes la banqueroute. Voilà. Bien plus récemment, au 19e et au 20e siècle, c'est notre goût pour l'excellente cuisine italienne qui a apporté une autre énorme provision de mots, hein, toutes les pâtes évidemment, comme par exemple les spaghettis, hein, spago, la ficelle. Un spaghetto, c'est une petite ficelle. La biscotte, hein, la biscotte, c'est biscotto, ça a été cuit deux fois. C'est l'équivalent français du biscuit, hein, ou le risotto qui vient du riz évidemment. Quant à la pizza, la galette qui est devenue le symbole à la tomate de la mondialisation, civilisation, eh bien son origine linguistique, pour le coup, reste incertaine. Certains, dans les linguistes que j'ai essayé d'étudier, certains la voient du côté d'un mot grec et d'autres d'un mot goth, des barbares qui s'étaient installés dans le nord de l'Italie au Moyen-Âge, après l'Empire romain. Reste que la grande période de l'italianisme se situe entre les 16e et 17e siècles. Et cette vogue, comme toujours, dans pareil cas, est due à la supériorité culturelle supposée du pays où on fait les emprunts. Au XIVe et au XVe siècle, plus exactement, je devrais dire les Trecento et Quattrocento, l'Italie est alors plus épargnée par les guerres et elle fait sa renaissance. Elle développe les arts et les lettres de façon extraordinaire. À la fin du XVe et au début du XVIe, les rois de France, derrière Charles VIII, exhument de vieux héritages, ils affirment des prétentions à toutes ces richesses et ils se rendent en Italie avec leur armée pour essayer de les conquérir. Ils n'en reviennent pas avec le royaume de Naples, comme ils l'espéraient, ou le duché de Milan, mais avec un émerveillement absolu pour le raffinement des mœurs qu'ils ont découvert de l'autre côté des Alpes. Arrive le temps des princesses italiennes, Catherine de Médicis, qui est la femme d'Henri II, Marie de Médicis, plus tard, qui est la femme d'Henri IV, ou des grands ministres italiens comme Mazarin, le premier ministre du jeune Louis XIV. Et surtout, avec tout ça, une fascination culturelle. Désormais, tout ce qui se fait de chic et de bien doit forcément venir d'Italie, d'où le tsunami, ça c'est un mot japonais, hein, comme vous le savez, de vocabulaire italien qui débarque dans le domaine des arts. Le clair-obscur, le dessin, qui vient de l'italien designio, hein, une représentation graphique, l'architecture, l'arcade, par exemple, de arcata, l'antichambre, la mode, hein, comme l'escarpin qui vient de scarpa la chaussure, ou évidemment la musique. Les gens qui n'écoutent que de la musique pop disent tout en anglais, le groove, le rap, le swing, etc. Ceux qui aiment la musique classique disent tout en italien, l'adagio, le concerto, la cantatrice, la cavatine, l'opéra, etc. Comme vous, vous êtes un jeune homme moderne, Amaury, vous avez appelé votre émission jukebox, c'est-à-dire un mot anglais. Si vous l'aviez faite il y a 3 siècles, bon, avec d'autres moyens techniques évidemment, il est probable que vous lui auriez donné un nom italien. J'ai cherché pour vous, et c'est pas facile d'ailleurs, parce que jukebox c'est un mot anglais, mais juke, c'est un mot qui dérive du goula. Le goula, c'est un créole de Caroline du Nord. Et juke, en créole du Caroline du Nord, donc, ça veut dire faire des zigzags, ou par extension danser, ou encore par une plus grande extension, faire de la musique. L'équivalent français le plus simple de jukebox serait donc boîte à musique. Alors j'ai cherché l'équivalent de ça en italien. Le problème, c'est qu'une boîte à musique en italien, ça se dit carillon. Donc c'est un mot français. Voilà.
Grazie mille, François Renard.
Prego.
On se retrouve le mois prochain et on vous retrouve d'ici là dans les colonnes de l'Obs. Et pour l'heure, reprenons et achevons notre récit. Avec le redressement économique de l'Italie à la fin des années 50, ce qu'on appelle le miracle économique italien, l'émigration vers la France se tarit, tandis que d'autres pays d'Europe, comme l'Allemagne, la Suisse ou la Grande-Bretagne, offrent de meilleures conditions salariales aux Italiens souhaitant quitter la péninsule. Ceux qui viennent en France sont désormais plus qualifiés. Par ailleurs, les Italiens déjà installés voient leur niveau de vie augmenter. Certains s'élèvent socialement, accèdent à la reconnaissance. Ainsi, le fils d'une famille arrivée dans les années 20 de Toscane, Ivo Livi, interrogé ici en 1953, alors qu'il était entre-temps devenu Yves Montand.
Quand je suis arrivé à Paris et qu'on m'interviewait, on me demandait où j'étais né, et je répondais à Venise ou Florence, parce que ça faisait bien pour l'exportation. Ce sont des villes qu'on connaît, ça vous comprenez? Bon, en réalité, je suis né dans un petit patelin qu'ils appellent Monsumano Alto. C'est à 10 km ou 20 km de Florence, comme vous diriez par exemple Paris et puis Versailles, quoi. Toute proportion gardée. Je suis venu en France, j'avais 2 ans, je ne connais pas du tout l'Italie d'ailleurs. Mon père est parti au moment de l'avènement du fascisme en Italie. Il est parti à pied. Et puis une fois qu'il a pu travailler un petit peu ici en France, il nous a fait venir avec la famille. J'ai quitté l'école à 11 ans, parce qu'il fallait manger. Je suis allé travailler dans une fabrique de pâtes alimentaires comme livreur.
Là, il ne s'agissait sûrement pas de votre origine italienne.
Non, non.
Non, c'était le seul poste libre,
oui,
c'est tout.
Oui, oui. Finalement, ça a cassé et je suis rentré dans la métallurgie, comme frappeur dans la chaudronnerie, au chantier de la Méditerranée à Marseille. C'était au début de la guerre, de la drôle de guerre. J'y suis resté 6 mois. Et puis ensuite, on a licencié les nouveaux rentrés et j'ai connu le chômage. Là, j'ai commencé un petit peu à chantonner à ce moment-là. J'ai essayé de mettre un petit numéro en place, comme ça. Ça a marché, puis ça n'a pas marché du tout. Là-dessus, j'ai eu un contrat pour passer à l'Alcazar de Marseille. Puis ça a marché, j'ai fait toute la province.
C'est environ à cette époque-là que vous avez décidé de venir à Paris.
Oui, c'est à ce moment-là. C'est à Paris où on se casse les reins, où on arrive à quelque chose.
Paris, où, malgré ce rapport distant, pudique, à ses origines, Montand avait, en 1962, laissé ressurgir ses racines, interprétant sur un disque de 4 titres, Bella Ciao, mais aussi cette Angelina, une chanson folklorique. Yves Montand, Angelina, 1962. Dans les années 60, alors que l'émigration italienne en France marque le pas, bientôt remplacée par l'émigration espagnole, l'Italie diffuse ses influences culturelles. Tandis que les pizzerias se multiplient, que Joe Dassin adapte Uno Tranquillo signé Riccardo del Turco, dont le résultat tourne en boucle sur les radios lors des grèves de mai 68, une poignée d'acteurs italiens deviennent les chouchous du public français. Montand, mais aussi Lino Ventura et son physique d'ancien catcheur, ou plus tard, en 72, Aldo Macchione roulant des mécaniques sur la plage dans L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Serge Reggiani, pourtant naturalisé, clame « C'est moi, c'est l'italien ». Adamo chante « La nuit », Dalida triomphe. Francesca Soleville incarne la gauche ouvrière et engagée. Certains descendants des migrants italiens accèdent à la tête de municipalités communistes en Lorraine. Chino Del Luca, un entrepreneur de génie devenu mania de la presse française, notamment la presse sentimentale, produit des films cultes, « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker ou « L'Aventura » d'Antonioni. Peu à peu, l'Italie, devenue dans les esprits celle de la Dolce Vita, ne fait plus peur, d'autant que d'autres migrants prennent le relais. Même si, dans les années 70, Rital reste pour certains une insulte, bientôt, les rejetons de la diaspora italienne pourront se caricaturer eux-mêmes.
Allez, l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. Arrivederci. J'aime les amants de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau.
La 1983, le Rital par l'italo-belge Claude Barzotti qui s'écoulera à 1,5 million d'exemplaires, Barzotti devenant alors, avec Frédéric François notamment, l'un des porte-étendards d'une italianité assumée et fière de son histoire. D'autant plus que l'année précédente, en 1982, la Squadra Azzurra, les footballeurs italiens, avaient remporté leur Coupe du Monde, reléguant Platini et ses coéquipiers à la 4e place. La roue tourne. À cette époque, l'immigration maghrébine se développe et catalyse les relents xénophobes de la société française. Les Italiens passent dès lors pour de bons immigrés dont on loue soudain unanimement la culture latine, joyeuse et folklorique, pas si éloignée au fond de la nôtre, leur catholicisme fervent, sans réaliser tout ce par quoi ils avaient dû passer un siècle durant. La France compte aujourd'hui 400 000 Italiens environ, mais aussi des millions de descendants d'immigrés transalpins dont la francisation des noms rend parfois difficile l'identification de leurs origines. Ces dernières années, de plus en plus de travaux historiques participent à ressusciter l'histoire de leur odyssée par-delà les Alpes, mais aussi à mettre en lumière leurs contributions diverses à ce qui constitue aujourd'hui la culture française.
Amo andare a scuola e mi piace studiare. Alla sera invece voglio solo ballare. questa mia passione non la so dominare, perciò non dir di no, oh papà. Vorrei avere un jukebox, oh 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 papà. Ti prego comprami un jukebox, se mi accontenti io ti prometto che d'ora in poi non uscirò mai più. Starò buonissima a fare i compiti e ascolterò Peppino dalla Rai e Celentano. Ma che malà, che strana novità, che c'entra quella là.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, comme un Italien en France. Une émission préparée avec Lily Cornaert, Pierre Plantin de la discothèque et Sophie Enoch Alina. À lire notamment les livres de l'historien Pierre Milza, mais aussi Ciao Italia, le catalogue de l'exposition donnée en 2017 au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Jukebox se réécoute et se télécharge depuis l'application Radio France, mais aussi depuis le site de France Culture, où vous retrouvez les références des morceaux et des archives diffusées, ainsi que la possibilité de nous écrire. À la technique aujourd'hui, c'était Jean-Michel Bernaud, Philippe Petit à la réalisation, au micro et au stylo à Maurice Chardot. À dimanche, 15h, pour un prochain Jukebox.
Inviterò un po' di gente a ballare, qualche rock, qualche twist, e forse anche tu mi aiuterai a spostare il tavolo, il tappeto, la TV, oh papà. Vorrei avere un jukebox, oh 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 papà. Ti prego comprami un jukebox, tu spendi meno se resto in casa, e in quanto a me io ci guadagnerò, perché gli amici miei dovranno gettonar per ascoltar Peppino dalla Rai e Celentano. Così potrò comprare dei dischi nuovi e sceglierò Peppino dalla Rai e Celentano. Ma non hanno capito niente, e come glielo spiegherò? Ma in fondo perché no?